France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Mélanie Chalandon, Joséphine Reynards et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. L'état de droit fragilisé en Europe centrale et orientale, des forces politiques qui s'arrogent le monopole de la souveraineté populaire. C'est la série de la semaine dans Culture Monde, après la Roumanie hier, la Serbie. Depuis l'effondrement d'une partie de la gare de Novi Sad en novembre, des centaines de milliers de Serbes manifestent pour que soit respecté le droit.
Même dans les villages les plus reculés de Serbie, les gens ont appris la vérité sur la mort des 15 citoyens tués par la chute de l'Ovan. Et aujourd'hui, plus personne ne croit les mensonges que le gouvernement nous sert chaque jour. Les gens ont compris la nécessité de descendre dans la rue.
Nous voulons que le système change. Le système en général ne fonctionne pas. Les institutions ne fonctionnent pas. Des changements sont nécessaires. Cette oppression du peuple et de tout le pays ne peut plus être tolérée. Je m'attends à des changements très bientôt.
Cette attaque contre la Serbie n'a pas commencé en Serbie, elle est venue de l'étranger. Et ne vous faites pas d'illusions, elle est venue de l'étranger, car certains à l'étranger ne veulent pas d'une Serbie libre, indépendante et souveraine.
Une Serbie souveraine, c'est donc cela que rejetteraient en bloc des milliers de manifestants qui descendent régulièrement dans les rues de Belgrade ou d'autres villes serbes, et ce depuis 6 mois maintenant, depuis l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad, la deuxième ville du pays où 15 morts recensés au moment du drame, il faut ajouter un 16e, un adolescent qui en mars n'a pas survécu à ses blessures. Si les cortèges demandent en fait principalement que les coupables ne restent pas impunis et que cesse la corruption, le président Aleksandar Vučić, que l'on vient d'entendre, les accuse d'être manipulés par l'étranger, comprendre l'Occident ou l'Union européenne qu'il veut pourtant toujours voir son pays rejoindre. Or, dans les cortèges, c'est plutôt lui qui est accusé de vendre le pays à l'étranger, à la France ou à l'Allemagne, intéressé par les chantiers à mener à Belgrade ou par le lithium à extraire, ou encore à la Chine qui avait pris de grandes marges sur les travaux de rénovation de la gare, avec le résultat que l'on sait. Si le contexte est par définition très différent de celui de la Roumanie dont nous parlions hier, c'est encore une fois une bataille de légitimité qui se joue et dont le président serbe fait un argument imparable. Nous en parlons avec vous ce matin. Ana Otasević, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante à l'EHESS, vous êtes documentariste, journaliste collaboratrice au Monde diplomatique et vous êtes spécialiste des mouvements sociaux et étudiants aux Balkans. Nous sommes également avec Florent Marciac. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès et chercheur à l'IFRI. Alors, avec vous deux, on va d'abord essayer de comprendre comment, d'où tout ça est parti, ce grand mouvement populaire qui continue aujourd'hui, et comment il a fait tache d'huile et comment il revendique lui aussi une forme de souveraineté populaire, de légitimité populaire. 6 mois après l'effondrement de cet auvent de la gare de Novi Sad, Ana Otasević, où est l'enquête en cours, si enquête il y a, par qui est-elle menée et est-ce qu'on a de nouveaux éléments pour éclairer vraiment ce qui s'est passé ce jour-là?
D'abord, il faut dire que ces moments durent toujours, c'est inédit, pas seulement dans le pays mais dans la région, qu'un moment dure 6 mois, et c'est presque chaque jour on a des actions, on a les différentes sorties et on sent un soif de la justice, une révolte qui atteint pas seulement les villes mais aussi à l'intérieur de, qui s'est propagée à l'intérieur du pays, et c'est ça qui fait que ces moments-là quelque chose qui est en train de bousculer pas seulement les codes politiques en Serbie mais dans toute la région. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, donc les étudiants, ils sont toujours sur les mêmes demande, c'est-à-dire que il y a les institutions qui marchent, d'abord les institutions judiciaires, parce qu'ils demandent que l'enquête sur cet événement tragique soit conduite, et pour l'instant, on a plutôt une tactique d'évasion de la part de la justice, qui est très fortement instruite par le pouvoir. Et alors, à la tête, c'est donc un procureur général qui mène cette affaire, cette enquête. Et c'est lui qui est un personnage politique, qui est directement mis par le vote de Parlement là-bas et qui est directement responsable au président. Donc, on a une mise à main sur la justice. Et donc, c'est ça qui freine le processus, enfin, la justice. Et c'est ça qui est la raison principale pour quoi, pour que ce moment dure toujours.
Parce que juste après l'effondrement, ou quelques jours après, ont été arrêtées plusieurs personnes, 11 en tout dès le mois de novembre, des ingénieurs en charge de la rénovation de la gare, des hommes politiques impliqués dans l'appel d'offres, dont le ministre de la Construction, Oran Vezic, qui avait de toute façon démissionné après le drame. Florent Marciac, est-ce que cela veut dire que un procès pourrait avoir lieu? Est-ce qu'il y a des chefs d'inculpation? Est-ce que des enquêtes sont ouvertes? Ou, comme le dit Anna Otasevic, le procureur fait en sorte que tout ça soit très vite clos, voire l'est déjà.
Oui, la Serbie sous la coupe de M. Vučić, c'est une Serbie dont les institutions judiciaires, les médias, enfin tout un certain nombre de garde-fous et de ce qui fait vivre la démocratie, sont contrôlés. Et d'où le manque de confiance des citoyens en la justice. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on est dans une autre forme de démocratie que qu'ici. Les institutions sont contrôlées, on ne peut pas avoir la garantie que les procès se déroulent de façon juste, d'où les protestations.
Les opposants disent que les arrestations médiatisées en novembre ont permis de désigner des coupables et de clore symboliquement l'affaire. D'ailleurs, Aleksandar Vučić a dit récemment que l'État avait fait tout son possible en matière de responsabilité criminelle, morale et politique. Sous-entendu, on n'ira pas plus loin. Ce qu'on sait, on peut quand même... Il y a eu des documents qui sont sortis, y compris à l'initiative d'Aleksandar Vučić. On sait quand même quelques petites choses sur cette enquête et sur ce qui s'est passé. Anna Otasevic, par exemple, les entreprises impliquées, qu'elles soient hongroises, chinoises, françaises aussi, l'entreprise française Egis, qu'est-ce qu'on sait sur la façon dont tout ça s'est passé? Est-ce que les documents qu'Aleksandar Vučić a consenti à publier à un moment, par exemple, révèle qui est donneur d'ordre, ce qui a été demandé, si les prix de la construction ont été gonflés, s'il y a eu corruption?
Ils ont sorti beaucoup de documents, mais pas les documents nécessaires, c'est-à-dire pas les documents qui démontrent le acheminement de financement. Donc, c'est ces documents-là qui sont demandés toujours, et il y a une commission indépendante qui est établie par les professionnels de différents fronts et qui demande justement les documents qui restent cachés. Donc il y a des milliers d'autres documents qui servent à Vučić pour dire qu'il a bien fait son travail. Mais en fait, on ne voit pas comment cet cheminement et cette architecture de corruption a été conduite, parce qu'il manque les documents sur le flux financier, par exemple, là où on va voir qui a payé quoi à qui, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants et beaucoup de deuxième, troisième mains qui sont dans ce système-là. Et tout ça, c'était révélé par les gens qui sont travaillés à l'intérieur, notamment un qu'on a écouté au début, un ingénieur qui était le premier lanceur d'alerte avec qui j'ai parlé, et qui a seul contre tout, il était seul de sortir et de dire comment s'est passé à l'intérieur. Et donc il est menacé, mais il continue de parler.
Il s'appelle Zoran Dajic. Vous l'avez rencontré en effet, Anna Otasevic, ainsi qu'une équipe d'Arte qu'il a donné à entendre en avril.
J'ai informé qui de droit que les travaux devaient être réalisés dans les règles. Mais les personnes concernées ont refusé de m'écouter. Puis, quand je suis revenu à la charge, j'ai reçu un courrier m'informant qu'elles refusaient que je me rende tous les jours sur le chantier. Alors, j'ai résilié mon contrat. Je ne voulais plus travailler dans ces conditions.
Que devient-il, Zoran Dadjic, Anna Otasevich? Vous l'avez rencontré, vous aussi?
Oui, on a parlé même hier. Il est très combattant. Il dit que le mouvement est en train de s'élargir. Il y a beaucoup de gens qu'il a rencontrés, inclus les gens à l'intérieur du système judiciaire et de la police aussi, parce qu'il était arrêté à un moment. Le pouvoir essaye tous les moyens de le faire taire et de le mettre en prison. Et donc, il était arrêté il y a peu, pendant qu'il a dîné avec sa famille. Il y a des 6 policiers qui sont venus l'arrêter. Et il m'a raconté qu'en fait, dans tous ces échanges avec la police, puis il est sorti parce qu'ils ont le juge, il n'a pas trouvé les arguments pour le maintenir en prison, qui veut dire quelque chose, qui veut dire en fait pour lui que à l'intérieur du système judiciaire, il y a beaucoup de personnes qui sont contre cette pression qui est exercée sur le système même, et même à l'intérieur de la police. Donc en fait, dans tous ces échanges qu'il a eus, en fait, il dit, j'étais traité de façon presque, voilà, avec beaucoup de respect.
Ce qu'il dit aussi, c'est que les prix pour ces contrats étaient enflés de 50 à 200% par rapport au marché, affirme-t-il. Les Chinois facturaient ensuite avec une marge supplémentaire de 12%. C'est ce qu'il répète. Florent Marciac, sur, encore une fois, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, toutes les zones d'ombre qui persistent, le fait que le chantier de rénovation, c'était bien un chantier de rénovation et non de construction de cette gare, les entreprises ont rénové la gare et quelques semaines plus tard, l'Auvent s'est effondré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres public.
Tout à fait. Et cet accident illustre assez bien tous les excès des dérives autoritaires en Serbie ces dernières années. C'est un projet, la gare, qui faisait partie d'un très large projet ferroviaire, une ligne de chemin de fer entre Budapest et Belgrade, donc pour le rappeler, dont la rentabilité commerciale n'était pas assurée. C'était financé par les Chinois majoritairement et construit par des entreprises chinoises et hongroises principalement. Alors, vous l'avez signalé, des soupçons de corruption, de négligence, mais au-delà de ça, il y a tout un système d'opacité qui a été mise en œuvre par le président Vučić dans ses relations économiques avec les partenaires externes, en particulier la Chine, qui lui permet de rétribuer ses réseaux clientélistes parce qu'il n'y a pas d'appel d'offres, et donc d'alimenter un népotisme. Et donc c'est vrai que c'est pas la première fois, il y a eu d'autres cas comme ceci, et c'est en convergence avec un certain nombre de dérives par ailleurs qui alimentent ces manifestations depuis maintenant une dizaine d'années. Chaque année, il y a des manifestations en Serbie. Alors, c'est vrai que l'ampleur, la durée, la diversité des manifestations, des manifestants sont inédits sur cette vague de protestations. Mais il y a eu de nombreuses manifestations dans le passé sur différents thèmes.
Et notamment sous Milosevic, mais ça remonte, c'était en 2000, également en 2023, après une fusillade dans un établissement scolaire. On estimait que le pouvoir ne maîtrisait pas assez, ne contrôlait pas assez la circulation des armes issus de la guerre. Donc en effet, au départ, le mouvement de colère, le point de départ, c'est cet auvent qui tombe, ce sont ces morts, 16 morts, et la corruption, et les manifestants demandent à la justice d'aller plus vite, de publier les contrats. On ne permettra pas à la corruption de mettre en danger la vie de quiconque, peut-on lire dans les cortèges. Ces mobilisations, donc, Anna Otasevich, elles commencent à Novi Sad et elles s'étendent à Belgrade et dans d'autres villes. Comment font-elles tache d'huile, et pourquoi au départ concerne-t-elle surtout les étudiants? Parce que c'est surtout dans les facs au départ qu'on voit des manifestations, des blocages.
Oui, tout à fait. Juste après l'événement de Novi Sad, il y avait des gens de Novi Sad qui sont sortis dans la rue. Mais 3 semaines après, il y avait les manifestations des étudiants à Belgrade qui sont bloqués une route. Et à ces moments-là, il y avait une attaque contre les gens qui étaient là en train de
manifester pacifiquement. Une attaque de qui?
Et c'était donc le personnage qui s'est révélé des membres de parti au pouvoir, de parti de Vučić, qui l'ont attaqué physiquement et verbalement. La police qui était là, elle a juste filmé, elle a rien fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, les étudiants de cette fac-là sont décidés de s'organiser. Et puis, tout de suite, en fait, les autres facs où il y avait déjà une faculté, où il y avait déjà une idée de faire quelque chose par rapport à cet énième incident qui a prouvé qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le pays, quelque chose de grave. Le moment s'est attendu dans toutes les facultés dans le pays, dans toutes les universités. Mmh. Et donc là là où il y avait la bascule, parce que en fait le gouvernement pensait que ça va passer vite, mais le basculement était un moment quand ils ont sortis des villes, qui sont entrés par les marches, par les différentes actions, entre les villes, entre les villages, où les gens sont sortis et il y avait un dégagement d'une émotion qui était absolument incroyable. Mmh. Les gens pleuraient quand ils le voyaient en train de marcher de ville à ville, de village à village. Ils ont souvent, en fait, on a entendu cette réflexion comme c'est comme des libérateurs. Et surtout dans la région agriculture où les gens se sont laissés pour ça montre en fait que c'est tout un système qui aussi alimente une injustice sociale. C'est ça qui est en train de s'écrouler par ces moments.
Et c'est pour ça que le mouvement n'a pas été cantonné dans les universités, il a agrégé, on l'entend dans ce que vous dites, dans les zones rurales aussi, des agriculteurs contre l'exploitation du lithium, des ouvriers, des commerçants. La grève générale le 24 janvier, on a vu des commerçants, des cafés fermer leurs stores dans les grandes villes. Et là, récemment, au 1er mai, des ouvriers et des syndicats qui se joignent. Comment, Florent Majel-Jacques, comment cela a contribué à faire évoluer les mots d'ordre de semaine en semaine, à mesure que ces cortèges s'alimentaient de nouvelles personnes, de nouveaux horizons?
Au fur et à mesure que le mouvement grandit et d'une certaine façon se radicalise aussi dans les revendications, il lève le voile sur la rupture de ce contrat social avec la population. Effectivement, l'insatisfaction est pas juste ponctuelle, elle s'exprime à l'encontre d'un système dans toutes les franges de la société. Et c'est vrai que c'est cette pression qui monte petit à petit que ressent le régime.
Le 15 mars, on compte 300 000 Serbes dans les rues de Belgrade, selon le mouvement, 100 000 selon les autorités, dans un pays, on le rappelle, de 6 600 000 habitants. Vous vouliez dire, Anna Otasevic, quelque chose au sujet de la façon dont les mots d'ordre, on ne cesse de les voir, la liste s'allonge, les revendications sociales, l'idée d'une convergence des luttes sociales, en fait.
Absolument, on a vu aussi dans les derniers jours, dans les manifestations de 1er mai, que les syndicats, sont pour la première fois, ils sont rejoints, ils sont s'est mis ensemble, qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et donc, il y a une idée de convergence de lutte parce que la situation sociale est grave. Après, les syndicats sont très faibles, très affaiblis, mais le mouvement fait que, en fait, il y a cette idée qui réémerge que la société est en face d'un problème d'insuffisance grave d'une idée sociale. C'est ça qui est devenu clair, qu'en fait la Serbie est un pays ravagé par un système économique néolibéral et par un système qui était décrit par mon collègue. Et il faut dire que c'est pas seulement que la Chine ou autres pays étrangers en fait participent à alimenter ce système profondément injuste, c'est aussi la France avec qui est dans cette joue-là et qui a bien compris qu'il y a des contrats pour elle et qu'il faut absolument bafouer tout ce qui est le message qui devait passer à la Serbie pour dans son processus d'adhésion à l'Union européenne. Donc en fait, c'est pas seulement les Chinois ou les autres pays, mais aussi les pays de l'Union européenne qui alimentent ce système qui profondément fragilise le pays, fragilise sa population. Les étudiants, ils ont compris ça. Dans leur plénum, dans lequel j'ai insisté, en fait, ils parlent souvent de ça. Ils parlent de cynisme européen. Ils parlent de manque de compréhension de la situation intérieure, de côté des experts aussi.
Donc, il parle de cynisme. Alors, vous avez ouvert plein de pages qu'on va essayer de parcourir. Il parle de cynisme européen. Or, Aleksandar Vučić, le président serbe, lui, ne cesse de sous-entendre, voire de dire ouvertement, que ces manifestants sont des agents de l'étranger, des pions d'une révolution de couleurs. Florent Marciac, la lecture selon laquelle on serait face à un mouvement pro-européen qui se tourne vers Bruxelles, et d'ailleurs certains des manifestants ont pris leur vélo jusqu'à Strasbourg pour alerter le Parlement, etc. Mais il y a cette lecture selon laquelle on serait face à un mouvement pro-européen qui interpelle un mouvement non pas anti-européen, puisqu'Aleksandar Vučić ne cesse de dire qu'il veut que la Serbie rejoigne l'Union européenne, mais qui joue double jeu également avec la Russie, très alliée de Vladimir Poutine. Cette lecture-là semble totalement insuffisante, voire erronée.
Oui, parce que d'une certaine façon, en Serbie, il faut mesurer la désillusion parmi les manifestations à l'endroit de l'Union européenne. Un processus très poussif et puis surtout un processus qui a permis la consolidation du régime de l'autorité de M. Vučić. Donc en réalité, dans les rangs des manifestants, l'Union européenne, elle n'est pas toujours perçue comme une alliée. Bien au contraire, on avait jusqu'à présent un commissaire qui était hongrois. On a des États membres, effectivement, qui soutiennent, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons politiques, comme la Hongrie ou la France ou l'Allemagne, le régime de M. Vučić. Donc c'est vrai que les manifestants n'appellent pas, ne trouvent pas en l'Union européenne l'allié qu'ils auraient espéré. Et ça, c'est très différent de la Géorgie. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de drapeaux européens en Serbie.
Mais d'ailleurs, ce n'est pas que une alliée qu'ils auraient espérée. C'est aussi un autre monde dont ils ne veulent pas. Pour certains, on a vu dans des cortèges aussi des drapeaux contre l'Union européenne et l'OTAN, des gens qui brandissent la lettre Z devenue l'emblème du soutien à ce que la Russie appelle opération spéciale en Ukraine. Donc ce mouvement est très hétéroclite. Anna Otasevich, ce ne sont pas que des déçus de l'Union européenne, ce sont aussi simplement des gens qui n'en veulent pas, qui veulent juste... Il y a une forme de souverainisme aussi du côté des manifestants, ou nationalisme, je ne sais pas, mais de dire on est serbe et on veut d'abord régler nos problèmes serbes.
Je suis passée suffisamment de temps là-bas, et je n'ai pas vu les drapeaux Z et tout, je ne sais pas...
Parce qu'on le lit partout, qu'il y a des drapeaux Z.
Je ne sais pas d'où ça vient, mais...
Vous n'en avez pas vu.
Pour moi, il est évident quelque chose. Il y a une lecture de la Serbie, au-delà de ces événements-là, qui est un pays qui est pro-russe, il y a toujours cette peur de l'influence russe, qui est d'ailleurs un argument pour le gouvernement, pas seulement français, mais aussi européen, pour dire, ah ben là, même s'il y a un autocrate là-bas, mais il faut gérer ça parce que c'est sensible, il peut basculer de l'autre côté. Et donc, en fait, on s'arrête là. Et on cherche toujours trouver une influence russe ou un Z ici et là. Non, c'est le moment et pas souverainiste, ce moment est profondément démocrate. Ces gens-là qui ont vingtaine d'années, ils sont en train de découvrir la politique, ils sont en train de découvrir aussi la scène politique européenne. Dans le plénum, ils discutent qu'est-ce qui se passe à l'Union européenne et dans les parlements où leur cause et leur lutte n'est pas du tout comprise et elle est ignorée. Et qui est clair de l'autre côté pour eux, c'est qu'il y a des représentants de gouvernement, soit c'était Olaf Scholz, soit c'est Emmanuel Macron, qui reçoit Vučić au moment où des grandes manifestations à Belgrade, juste quelques jours après, à Élysée, et Vučić il utilise ça comme à l'intérieur du pays, comme une preuve d'acceptation par l'Ouest. Donc en fait, il y a on confond les registres. Vučić, à l'intérieur du pays, il dit oui, c'est une révolution de couleurs. Il évoque, mais on ne sait pas qui est contre, qui soutient ces révolutions de couleurs. Donc, en fait, on n'a aucun argument, aucun preuve. Et de l'autre côté, il utilise aussi cette carte de Ah ben non, moi je suis en fait très bien à l'échelle internationale. Je suis reçue par tel ou tel ou tel. Et donc ces joues équilibristes très sensibles, enfin très fragiles, mais qu'il joue toujours comme sa carte principale. Et donc quand il est reçu à Élysée, il utilise ça contre les forces de pas étudiants et aussi d'opposition dans le pays pour dire ah non, vous dites que vous êtes pour l'Europe, mais c'est moi qui ai reçu à l'Élysée, c'est moi qui fais les contrats avec la France, c'est moi qui achète les Rafales. Et voilà, évidemment c'est ça le prix de soutien à Vučić, c'est les Rafales qui sont vendus à la Serbie, 12 rafales toutes neuves. On ne sait pas pourquoi on a besoin, mais il y a une lecture à l'intérieur de Serbie par les forces d'opposition et démocrates que tout ça, c'est revenu à marché et il n'y a aucun autre message qui est envoyé de l'Europe.
Donc c'est bien une bataille de souveraineté, de légitimité populaire. Florent Marciac, d'un côté, des manifestants qui disent qu'ils veulent que la souveraineté de la Serbie est bradé, alors que ce soit auprès de l'Allemagne, la France, la Chine, la Hongrie ou d'autres, et de l'autre un président serbe qui les accuse de vouloir faire pénétrer des influences étrangères dans le pays.
Du doigt les influences étrangères présupposées dans ce mouvement, ça permet à M. Vučić de détourner l'attention, effectivement, des problèmes de son système qu'il a mis en place. Donc c'est vrai que c'est très facile de ce point de vue-là, mais on voit que ça marche assez mal, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque les manifestants restent très actifs en pointant du doigt les manquements dans le système, la démocratie, c'est pourquoi ils se battent. Maintenant, c'est vrai qu'au sein des manifestants et dans la diversité de leur composition, il reste à voir si l'objectif est de tourner la page de ce régime qui maintenant s'est mis en place depuis une dizaine d'années et qui a atrophié complètement la démocratie serbe, ce qui serait une formidable, ou si c'est également de tourner la page du passé avec un agenda de réconciliation. Et là, c'est là où le mouvement est beaucoup plus divers, puisqu'il ne s'engage pas à la réconciliation dans la région. Le rôle de la Serbie vis-à-vis du Kosovo, la non-reconnaissance, ce sont des pivots sur lesquels le régime s'appuie en n'avançant pas, justement, et au contraire en sapant les efforts de réconciliation. Donc ça reste un chantier pour voir dans quelle mesure les ambitions de ces manifestants pourront porter la Serbie vers un avenir beaucoup plus apaisé.
Anna Otasevic.
Je suis pas d'accord, parce que justement ces mouvements, en fait, s'est propagé dans toute la région et il est très suivi par les étudiants en Croatie, en Bosnie, aussi dans les régions, dans les villes musulmanes en Serbie. Novi Pazar est un bon exemple. En fait, il y a une réunion des convergences, des luttes des étudiants de différentes religions, de différentes nationalités. Donc, en fait, ces mouvements, justement, fait ça, dépasse les frontières nationales et il devient, en fait, une force qui est pas seulement important en Serbie, mais au-delà de la Serbie. On verra où ça va aller, mais c'est vrai qu'il y a une lecture, disons, dans la presse occidentale ou dans les médias, de façon que j'ai remarqué. Et ça c'était, par exemple, au début, c'était souvent le cas des correspondants, des médias qui sont basés à Vienne ou voilà, qui se déplacent même pas en fait dans la région, qui pensent savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a d'autres régions qui sont plus importantes. Il y a l'Ukraine, il y a, je sais pas, la Géorgie. Et en fait, ils sont en train de simplifier les choses et dire que le moment qui se passe en Serbie, c'est à peu près pareil comme Slovaquie ou comme Géorgie. Ce sont forcément les forces pro-européennes, pro-occidentaux, qui sont contre l'influence russe. C'est souvent, on termine là. Et donc, on n'entre pas dans la diversité de ces moments. Diversité de forces politiques aussi à l'intérieur, mais ils ne sont pas affichés parce qu'en fait, ils voulaient garder leurs revendications principales qui réunissent tout. Mais il y a une force de solidarité Il est une force de justement de politique et de démocratie directe.
Oui, vous disiez que vous aviez assisté à des plénums de ces étudiants. De quoi s'agit-il exactement? Ils se réunissent dans les facs, principalement pour...
Ils se réunissent dans les facs chaque jour, depuis 5 mois. C'est un laboratoire politique incroyable. Ils discutent les questions politiques à l'intérieur du pays, mais aussi à l'échelle européenne. Et donc, en fait, ils sont souvent confrontés aux choses qui trouvent ce prénom. Par exemple, comment les médias traitent leur moment. Comment,
les médias serbes,
les médias,
vous voulez dire
occidentaux.
Parce qu'ils les lisent, ils regardent aussi comment cette mobilisation est lue dans la presse, comme vous le disiez, avec des raccourcis.
Absolument. Ils ont reçu beaucoup de demandes de médias, aussi français, en fait. Et au début, en fait, ils ont accueilli beaucoup de monde, beaucoup de journalistes. Et en fait, ils se sont aperçus que les journalistes font n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait, au moment, ils sont soit en train d'associer aux ONG ou aux différents d'autres mouvements qui sont pas forcément qui vont pas forcément dans leur sens,
ou alors à dire qu'ils sont liés à l'opposition serbe politique alors qu'ils n'ont rien à voir avec elle et que souvent ils ne sont pas d'accord.
Mais c'est pas qu'ils n'ont rien à voir, en fait, qu'ils voulaient vraiment garder cette côté autonome autochtone, parce que en fait ils sont tellement attaqués sur ces points qu'ils sont soit agents de l'Occident, soit agents de, je sais pas, russes, soit agents d'opposition. Donc ils voulaient absolument insister sur l'autonomie de leur mouvement.
Et pendant ces plénums, ont circulé par exemple ces derniers mois un manuel de grève rédigé en 2009 après des mobilisations à Zagreb en Croatie, ce qui a d'ailleurs fait dire à la présidente de l'Assemblée nationale qu'il y avait des ingérences croates en Serbie.
Ça fait maintenant 4 mois que nous bloquons notre université parce que nous voulons que justice soit rendue pour punir cette corruption. Nous avons fait tellement de choses qu'on ne peut plus revenir comme avant. Je pense que c'est déjà un succès. Il faut encore réveiller beaucoup de monde.
Tout le pouvoir est concentré, et même pas dans une partie politique, mais dans les mains du président de la République. Avec un système judiciaire qui fonctionne pas, avec un parlement national qui est en fait une machine à voter.
Un étudiant et la doyenne de la faculté des sciences politiques de Belgrade au micro de Valérie Crova pour France Inter au mois d'avril. Florent Marciac, si quelques manifestants demandent un changement de système ou un changement de président à minima, mais un changement de système, est-ce que c'est le cas du mouvement dans son ensemble ?
C'est l'objectif. Enfin, je donne pas dans les manifestations. C'est pas simplement cosmétique de changer, d'améliorer ici et là 2-3 choses. Il y a effectivement une volonté de changer profondément le système, sachant que M. Vučić en est une pièce qui est importante, mais c'est pas la seule pièce. Donc l'insatisfaction, la colère est très générale et très profonde.
Anna Otasevic, on n'a pas parlé de la répression policière qui s'est abattue sur certaines de ces manifestations, avec une enquête en cours sur l'utilisation d'un canon à son qui est strictement interdite en Union européenne, ou un canon à vortex. C'est le rapporteur de l'ONU sur les droits de l'homme qui en parle. Entre autres, les manifestants racontent comment, lors d'une manifestation un jour à Belgrade, ils ont eu l'impression qu'un avion leur tombait dessus. Ils ont dû tous se boucher les oreilles, partir. Certains n'entendent plus d'une oreille. C'est a priori une arme qui aurait été, enfin, du matériel qu'on utilise en général contre les pirates en mer et qui aurait été utilisé par les forces de l'ordre en Serbie. Tout ça fait l'objet d'enquêtes. On n'a pas évoqué non plus les contre-manifestations qu'Aleksandar Vučić organise. Peut-être d'abord répondre à cette question que j'adresse à Florent Marciac. Est-ce qu'il y a une volonté d'un changement de système en Serbie aujourd'hui dans les cortèges ?
C'était pas les demandes des étudiants, c'était pas au moins c'était pas depuis le début. Donc ils disaient, nous on voulait pas renverser Vučić, on voulait que l'institution marche, on voulait que ce système, finalement, qu'on croit à la justice, qu'on croit à la police, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y avait leurs demandes n'étaient pas, donc
on n'a pas accédé à leurs demandes.
Oui, et puis en fait le mouvement s'est radicalisé au fil des mesures, Et mais en fait, il y avait une énorme pression exercée par le parti d'opposition qui n'ont pas réussi de renverser Vučić.
Au Parlement, il y a eu des bagarres.
Oui, il y avait aussi des affrontements et tout. Mais en fait, c'est montré aussi la faiblesse de l'opposition quelque part, quoi, qui essaye de se coller au mouvement étudiant et de
récolter les fruits.
Voilà.
L'opposition qui voulait un gouvernement de technocrates, d'experts,
Ils voulaient absolument imposer ça aux étudiants. Il faut savoir que ce sont des gens de 20 ans qui sont pas forcément, qui étaient pas politisés dès le départ. Là, maintenant, après 5 mois d'école politique, en fait, ils ont compris comment les choses marchent. Hier, ils sont sortis avec une demande qu'ils, les étudiants, après, donc, 5 mois de lutte qui a pas porté le fruit, ils demandent les élections, d'organisation des nouvelles élections.
Donc oui. C'est une demande aujourd'hui.
Parlementaires d'hier, voilà, qui sont sortis, qui sont s'est réunis dans le plénum et sont mis d'accord. Et à mon avis, ça c'est aussi sur la pression de tous ces acteurs politiques qui essayent de transformer ce mouvement étudiant qui a eu des revendications très claires, donc que les responsables pour cet événement à Novi Sad soient mis devant la justice, que les attaquants contre les étudiants sont portés devant les tribunaux. Et voilà, et ce sont des revendications principales. Donc, ils n'ont pas eu l'idée de changer le système en profondeur. Après, tout ce qui est, tout ce qu'on a vu dans la rue et à travers le pays, c'est bien cela le message que les gens, ils ont compris que, qu'il y a une énorme colère, en fait, dans la population et qu'il peut être cet acteur qui peut changer la donne. Si c'est pas la proposition qui est très faible.
Mais avec d'autres Serbes, des milliers de personnes aussi, sans doute moins nombreux, mais quand même relativement nombreux, qui disent que la légitimité n'est pas du côté de ces manifestants, qu'elle se trouve du côté du pouvoir, cette légitimité. Il y a eu ce qu'on a appelé des contre-manifestations Florent Marciac, et dont on ne cesse de dire qu'elles ont été organisées par Aleksandar Vučić, le président serbe. Quelle preuve est-ce qu'on en a que ces contre-manifestations ont vraiment été organisées? Que les manifestants ont même été payés, d'après certains, pour venir à Belgrade et dire qu'ils voulaient qu'Aleksandar Vučić soit maintenu à son poste et que les manifestants rentrent chez eux.
Alors, disons que M. Vučić et son parti a une machinerie qui est bien huilée.
700 000 membres.
Lors des dernières élections, il y avait des bus qui étaient affrétés de Bosnie pour faire voter des Serbes de Bosnie à Belgrade. Donc il y a effectivement toute une organisation qui facilite cela. Ça rentre dans le cadre d'une société qui est relativement contrôlée par le régime, très politisée, prise en main. Et puis il y a les médias également qui diffusent simplement des informations de façon partielle, donc qui mettent l'accent ici et là. Donc oui, effectivement, ça fait partie des leviers dont dispose Monsieur Vučić pour un petit peu minorer l'impact et l'ampleur des manifestants, et puis rappeler qu'en fait, il y a toute une partie de la population qui, soi-disant, lui reste fidèle avec les informations dont il dispose.
Donc ce mot d'ordre des contre-manifestants, on ne cédera pas la Serbie, même si personne n'a vraiment compris à qui il est question de céder la Serbie. Vous avez bien expliqué tout à l'heure les éléments de langage qu'il y avait de part et d'autre. Des manifestants qui arrivent affrétés par des bus, qui arrivent aussi pour certains du Kosovo, puisqu'il y a des Serbes au Kosovo et qu'Aleksandar Vučić semble faire appel à eux.
Ceo život brinem, ceo život gledam svoj strah, kao da stalno preti krah, uvek me prati kratak dah. Glas u piću je zaborav, u hrani možda uteha, u moru je mir, tvoje ruke nude predah, u ljubavi je pobeda. svoj ples. Pripoznajem taj smeh kad svaka misao je greh.
Ana Kurcin, chanteuse serbe, et son groupe Ana and the Changes et sa chanson Brinem, Je m'inquiète. Elle date d'il y a quelques semaines, cette chanson, et néanmoins elle n'est pas en référence directe à ce mouvement inquiet lui aussi. Pour faire bonne figure face aux manifestants, Aleksandar Vučić va chercher du soutien là où il lui est assez facile d'en obtenir, parmi certains Serbes du Kosovo.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Près d'une centaine de milliers de Serbes vivent au Kosovo, qui a proclamé unilatéralement son indépendance en 2008, mais où les municipalités les plus au nord notamment sont administrées par la Serbie. Tous les Serbes du Kosovo ne soutiennent pas Aleksandar Vučić. Alors qui sont ceux que l'on a retrouvés dans les manifestations de soutien au président serbe à Belgrade? Bonjour Florian Bieber.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université de Graz et coordinateur du BIEPAG, c'est Balkans in Europe Policy Advisory Group. Vous êtes à Graz en ce moment. D'abord, qu'est-ce qu'on sait de la présence de Serbes du Kosovo dans ces contre-manifestations et dont on ne peut pas douter, ne serait-ce que parce que le président serbe lui-même les a en quelque sorte remerciés pour leur loyauté?
Enfin, il y a quelques centaines, on ne sait pas exactement les nombres, mais il y a les Serbes du Kosovo qui ont participé dans les contre-manifestations. Il faut se rendre compte que, bien sûr, la majorité des Serbes au Kosovo travaillent pour l'administration publique. Donc comme ça, comme partout en Serbie, le gouvernement de Vučić a beaucoup de moyens de faire pression aux Serbes de participer dans cette sorte de contre-démonstration, comme nous avons vu plusieurs fois en Serbie dans les derniers mois.
Donc pression à l'emploi essentiellement?
Exactement, c'est ça. Bien sûr, il y a aussi les Serbes au Kosovo qui soutiennent Vučić parce qu'ils il se présentent comme quelqu'un qui peuvent sauver pour soutenir les Serbes au Kosovo. Il a toujours dit qu'il acceptera jamais l'indépendance du Kosovo. Donc comme ça, hors des gens qui doivent soutenir Vučić à cause de leur emploi, il y a certainement aussi beaucoup de Serbes au Kosovo qui lui soutiennent, qui n'ont pas vraiment beaucoup des autres sources d'informations, et qui se sont un peu isolés et dans une situation difficile entre la Serbie et le Kosovo.
Donc il y a en effet ceux qui ont peur pour leur emploi, ceux à qui on propose de l'argent, c'est le journaliste et membre du mouvement Amour, Foi, Espoir en Serbie, Nemanja Sarovic, qui dit que le président serbe peut rétribuer chacun jusqu'à 100 euros pour le déplacement. Donc certains font plus de 300 km à pied, en groupe, pour venir à Belgrade, mais d'autres, dont vous dites, Florian Bieber, qu'ils soutiennent aussi Aleksandar Vučić par conviction. Les électeurs, par exemple, du parti La Liste Serbe, qui au Kosovo est proche d'Aleksandar Vučić, voire qui espère que ces municipalités du nord du Kosovo soient rattachées à la Serbie.
Enfin, ça c'est un espoir long terme. Donc, bien sûr, dans les municipalités du nord, l'État serbe est assez présent, même si dans les derniers mois ou dans les dernières années, l'État du Kosovo est devenu plus visible avec la police, les services de sécurité. Mais en même temps, il y a certainement une majorité des Serbes au nord qui ont encore l'espoir qu'un jour, ces municipalités peuvent faire partie de la Serbie propre. Donc le reste du Kosovo, donc il y a aussi environ la moitié des Serbes au Kosovo habitent pas au nord, mais habitent dans les municipalités plutôt au centre du pays. Celui-là ont plus de cet espoir parce qu'ils sont autour d'eux, ils habitent les Albanais kosovars, et au-delà, c'est certain qu'il n'y a aucun espoir qu'ils peuvent vivre dans la Serbie, mais au nord, cet espoir est encore très fort et la présence de l'État serbe est très visible.
Alors évidemment, comme pour toutes les populations du monde, ça n'a aucun sens de parler des Serbes du Kosovo qui soutiendraient Aleksandar Vučić. Il y a aussi des Serbes du Kosovo qui, à l'inverse, ont participé à des manifestations de soutien aux étudiants serbes. C'est en tout cas ce qu'affirme une radio kosovare, Radio Goras Devac. Vous en avez vu Florian Bieber dans les manifestations. À quel titre certains Serbes du Kosovo aujourd'hui soutiendraient ces manifestations?
Non, il n'y a aucun doute qu'il y a aussi beaucoup de Serbes du Kosovo qui soutiennent les manifestations contre Vučić. Ils sont peut-être moins visibles parce que là, dans les manifestations contre Vučić, on ne fait pas la différence entre les Serbes du Kosovo et les autres Serbes, c'est très clair. Comme vous avez vu dans la discussion avant, il y a beaucoup de personnes et des vues politiques différentes dans les manifestations contre Vučić. Donc ce ne sont pas seulement les forces pro-européennes, même ici ils sont dans la majorité, je dirais. Il y a aussi les nationalistes, il y a les gens qui sont contre Vučić pour des raisons différentes. Donc comme ça, il y a certainement aussi les Serbes du Kosovo qui soutiennent les manifestations contre Vučić. Mais bien sûr, on parle d'une population marginalisée dans une situation très difficile et aussi qu'ils ont expérience parfois mauvaise avec l'État kosovar, donc qui se sent un peu isolés dans une situation sans soutien ni de l'Ouest, ni du Kosovo, ni parfois de l'État serbe qui les utilise, mais au même temps, l'État serbe semble être très content avec le status quo, donc la situation actuelle. Donc, il se sent un peu sans soutien de personne.
Le gouvernement d'Albin Kurti au Kosovo, donc cette capitale Pristina qui se désintéresse aujourd'hui des Serbes du Kosovo, sans aller jusqu'à reconnaître l'indépendance du Kosovo, la Serbie était censée normaliser ses relations avec lui. C'est ce que stipulait l'accord signé en 2023 sous les auspices de l'Union européenne et des États-Unis. Florian Bieber, qu'est-ce qui a été entrepris depuis ?
Plus ou moins rien. Donc cet accord prévu la normalisation des relations entre les deux pays, donc sans que la Serbie reconnaisse le Kosovo, mais ça n'a vraiment pas changé beaucoup sur le terrain. Donc la Serbie a toujours être contre chaque pas pour le Kosovo d'être plus reconnu dans le monde. Les relations sont très mauvaises, il y a beaucoup de tensions. Il y a eu un incident armé avec un groupe paramilitaire serbe il y a un an et demi qui n'était pas résolu. Donc la personne responsable était une personne politicien proche à Vučić. Il habite maintenant en Serbie, donc sans conséquence. Donc on peut dire que les relations entre Kosovo et la Serbie, même s'il y a un processus de dialogue qui dure déjà presque 15 ans, n'a pas donné les résultats. Donc, on ne voit pas une perspective que la Serbie peut vivre avec l'existence d'un pays au sud, dans le terrain que la Serbie appelle le parti de la Serbie.
Merci beaucoup Florian Bieber d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Graz et coordinateur de ce groupe sur la politique européenne dans les Balkans, groupe de conseil. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Peut-être une réaction à Anna Otasevic sur cette question kosovare qui semble là s'être invitée, des Serbes du Kosovo qui sont invités dans ces manifestations et contre-manifestations en Serbie.
La situation est beaucoup plus complexe au Kosovo pour les Serbes. Il y a quantité des réflexions politiques et aussi une diversité politique à l'intérieur de communautés serbes qui est dans une situation désespérante parce qu'ils sont censés, ils sont contraints à vivre dans les esclaves, leurs droits principaux de citoyenneté ne sont pas respectés, ils sont tout le temps sous le contrôle des polices kosovars qui les traitent comme dans un réservoir. Et donc, voilà, cette question-là est aussi un échec des politiques européennes et des négociations qui sont menées par la France et par l'Allemagne, encore une fois. Et dans tous ces cas-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand on parle des moments en Serbie, quand on parle de situation au Kosovo ou ailleurs dans la région, on constate un échec européen d'abord. Et c'est ça qui freine le processus démocratique dans la région. C'est cette lecture que l'Union européenne, qui a eu un message fort d'élargissement et de valeurs, de communauté des valeurs, qu'elle a complètement par ses actes et par des contrats qui sont
vous nous parlez du Rafale tout à l'heure,
oui, autres contrats, en fait, que ce message est passé complètement au deuxième plan. Et maintenant, en fait, la population qui a vraiment atteint ces communautés de valeurs qui voulait participer justement pour changer leur pays corruptif ou leur système qui marchait pas et la démocratie qui est en panne, elle ne croit plus.
Mais vous nous disiez tout à l'heure que les manifestants c'est pas qu'ils n'attendaient rien de l'Union européenne, mais que c'était pas spécialement à elle qu'ils s'adressaient, qu'ils voulaient quand même que cette question reste une question souveraine en Serbie.
D'un côté, de l'autre côté, qu'il y a une compréhension de la part de l'institution européenne. Il y a maintenant, en fait, les étudiants qui sont en train de courir de Serbie à Bruxelles, justement pour passer le message, en fait, quelle est la raison de leur lutte. Mais en fait, le message passe pas parce que justement les gouvernements se taisent. Le gouvernement se taise en France comme en Allemagne parce qu'ils ont des intérêts économiques. Donc en fait, ils montrent pour la population, pour les étudiants à l'intérieur, que leur intérêt, qui parfois passe comme intérêt néocolonial, en fait, sont d'abord et donc ce sont des intérêts très nationalistes, nationaux en fait, de la France ou de l'Allemagne, qu'ils ont exercé là. Et en fait, le message, c'est pas que, en fait, vous êtes nationaliste, vous êtes souverainiste. Non, en fait, le message là, et nous, on veut être les Européens selon les valeurs que vous avez évoquées au départ. Et là, maintenant, vous êtes vous-même en train de ça perd le sens, en fait.
En tout cas, Aleksandar Vučić, le président serbe, a beau jeu de dire que ces manifestants sont manipulés par l'Union européenne, l'Occident, c'est une révolution de couleurs, puisqu'on entend bien de ce que vous nous dites, Ana Utasević, qu'en fait, l'Union européenne ne répond jamais quand on l'appelle, en l'occurrence, que les Serbes essayent de la...
Pas seulement qu'elle ne répond jamais, mais quand Macron vient en Serbie en août dernier, en fait, pour vendre les Rafales, ils font des fêtes incroyable en fait, d'avant les yeux de la population qui est appauvrie, qui se demande pourquoi on a besoin des Rafales. Mais non, la diplomatie française sert comme marchand des armes, en fait. Donc, et tout ça, c'est très, très clair, en fait. C'est pas que les gens là-bas ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la démocratie, qu'est-ce qu'est l'Europe. Non, 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 ils comprennent très bien. Ils sont très bien informés.
Mais ils ne sont pas entendus. Merci beaucoup, Ana Utasević, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes doctorante à l'EHESS, documentaire, que vous travaillez régulièrement pour Le Monde diplomatique et que vous travaillez sur ces mouvements sociaux et étudiants aux Balkans. Et nous étions avec Florent Marciac, que je remercie, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès et chercheur à l'IFRI. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Israël a confirmé hier, Catherine, une nouvelle campagne militaire sur la bande de Gaza et cette décision divise la presse.
Après 19 mois de guerre dans l'enclave palestinienne, cette nouvelle campagne prévoit la conquête du territoire palestinien et nécessitera, selon l'armée, le déplacement interne de la plupart des Palestiniens, rapporte le Times of Israel, la chaîne Qatari Al Jazeera et le site Al Monitor. Il ne faut pas bégayer ni hésiter, affirme un éditorialiste du quotidien israélien Makor Rishon, pour qui, à Gaza, au Liban et en Syrie, l'armée israélienne doit nettoyer la zone des sujets ennemis, la prendre et la garder entre nos mains pour une durée illimitée, fin de citation. Mais cette décision a provoqué des manifestations, montre le journal Yediot Aharonot. Et l'armée israélienne a même averti le gouvernement de Benjamin Netanyahou que l'extension de l'offensive à Gaza pourrait mettre en danger la vie des otages restants, rapporte le journal de gauche à Haaretz. Les membres du Hamas qui détiennent ces otages pourraient fuir les zones de combat, laissant les captifs derrière eux dans des tunnels sans eau ni nourriture. Et à plus long terme, ce nouveau plan risque d'entraîner une guerre perpétuel, un enlisement comme celui des États-Unis en Irak, estime un autre article du journal Haaretz. Car le gouvernement israélien veut prendre en charge la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, avec des points de distribution dans le sud de l'enclave, impliquant des entreprises de sécurité privées, venues notamment des États-Unis, ainsi que des agences humanitaires, précise El País America, le tout entouré de barbelés, les troupes israéliennes contrôleraient qui peut entrer ou non pour empêcher le Hamas de voler l'approvisionnement, indique Israël. Si tout cela vous semble familier, c'est que vous avez probablement vécu la guerre en Irak et les jours heureux où les entrepreneurs américains opéraient sous la direction de l'armée américaine, ironise le quotidien Haaretz, pour tenter de séparer la population locale des terroristes et de remplacer le régime, mais on ne sait pas exactement par quoi. Ce genre de plan mène finalement à ce que le président Trump a qualifié de guerres éternelles, sans stratégie de sortie claire. Les sous-traitants américains en Irak se sont également rendus responsables de violations flagrantes des droits humains, rappelle Haaretz. Pour le New York Times aussi, Israël commet la même erreur que les États-Unis en Irak, alors que fournir une aide humanitaire n'est pas seulement un impératif moral, écrit le quotidien américain, c'est une nécessité militaire pour construire une paix durable.
Et des milliers de Gazaouis sont à nouveau confrontés à une menace accrue de la famine.
Le New York Times montre d'ailleurs des Gazaouis contraints de manger des graines pour oiseaux pour espérer survivre. Plus de 9000 enfants ont été hospitalisés pour malnutrition aiguë depuis le début de l'année, alerte l'UNICEF et la chaîne Qatari Al Jazeera, dont le petit écran entre dans de nombreux foyers du monde arabo-musulman. Al Jazeera qui montre des visages émaciés de Gazaouis, des enfants affamés. Ne répétons pas nos erreurs, implore Ronald Newman, ancien ambassadeur des États-Unis, dans les colonnes de la Jerusalem Strategic Tribune. Il confie avoir vécu des expériences douloureuses en Irak et en Afghanistan et il met en garde contre la survie du Hamas alimentée par la colère des Gazaouis contre Israël. 20 ans après la guerre en Irak, j'aurais pensé que nous serions plus aptes à reconnaître un agenda politique fonctionnant sous couvert de légitime défense, écrivait dès 2023 l'autrice irako-américaine Houda Al-Marashi dans une tribune pour le média panarabe Middle East Eye, et que nous finirions par comprendre que nous sommes tous du même côté, celui de l'humanité. C'est ce qu'ont exprimé des Israéliens et des Palestiniens qui ont défié le cycle d'une réalité sanglante, titre le journal Haaretz, en se retrouvant pour une cérémonie du souvenir, l'occasion pour eux de faire leur deuil ensemble et de revendiquer donc la fin des violences, ajoute le quotidien Haaretz, qui cite notamment Liora Ayalon, qui a survécu aux attaques terroristes du 7 octobre, mais qui a perdu son fils Tal ce jour-là. Elle continue de militer pour la paix et côtoie au sein du Forum des Familles une Palestinienne qui vit en Cisjordanie et dont la mère a été abattue par un sniper dans la bande de Gaza. Malgré la douleur, et peut-être à cause d'elle, ces militants pour la paix, israéliens et palestiniens, veulent montrer qu'il est possible de rejeter la haine mutuelle, écrit encore Haaretz. De rejeter la violence et le sentiment de vengeance qui ont envahi le cœur de tous, de la rivière à la mer.
Et pour conclure, Catherine, Vladimir Poutine se prépare au grand défilé du 9 mai dans l'ombre du conflit en Ukraine.
Avant de commémorer vendredi sur la Place Rouge les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie en présence d'une vingtaine de chefs d'État, dont les présidents chinois Xi Jinping et le brésilien Lula, des drones ukrainiens ont ciblé Moscou pour la deuxième nuit consécutive, titre le Kyiv Independent et le Guardian. 19 drones interceptés par la défense antiaérienne, explique le maire de Moscou et le quotidien russe Kommersant. Moscou qui a proposé par ailleurs une trêve de 3 jours dans la guerre en Ukraine, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'y croit
pas.
Ce n'est pas la première fois que la Russie fait des promesses de cesser le feu. Nous savons à qui nous avons affaire. Nous ne les croyons pas, a déclaré le président Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Prague, relayée notamment par les médias ukrainiens Souspilné et Ukrainska Pravda. Lors du week-end de Pâques, une centaine d'attaques avaient été perpétrées en Ukraine par la Russie lors d'une soi-disant trêve proposée par Moscou.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Dans un instant, les Midi de Culture.